Bonjour, chers frères et sœurs. Je vais vous faire une lecture dans Luc, chapitre 12 et verset 50. Je vais vous faire cette lecture dans une version que vous ne connaissez peut-être pas, qui n'est pas tellement utilisée dans les milieux évangéliques modernes, mais qui est excellente, c'est la version Darby. Luc 12, 50. C'est Jésus qui parle et qui dit « J'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli ?» Le baptême dont Jésus parle là, c'est le baptême dans son sang. C'est le baptême, c'est sa mort. Et quand Jésus parlait de sa mort, de l'heure de sa mort, Jésus l'appelait « mon heure ». Il disait « c'est pour cette heure que je suis venu ». L'heure où il allait pouvoir montrer la preuve de son amour suprême pour Dieu, mon heure. Mais qui a bien pu amener notre Seigneur à mourir supplicié sur une croix? Qui a pu amener notre Seigneur entre deux scélérats et à subir une telle humiliation? Il n'y a pas trois dieux, il y a un Dieu qui s'est manifesté de trois façons différentes. Et Jésus, et Dieu venu en chair, c'est Dieu qui a voulu venir mourir de cette manière-là, afin que nous puissions être choqués, interpellés, que nous sachions à quel point il nous aimait. Mes frères et sœurs, ce qui a conduit Jésus à donner sa vie de cette manière, c'est l'amour oublieux de sa dignité. Manifester de l'amour, c'est pas rechercher ce qui nous conviendrait le mieux. C'est pas chercher ce qui conviendrait le mieux à notre dignité. Manifester de l'amour, c'est révéler à la personne aimée, comme dans une folie. Et qu'est-ce que nous voyons en regardant Jésus en croix? Nous voyons la sagesse devenue insensée par excès d'amour. La folie de la croix. Quand nous disons que nous aimons Dieu, qu'est-ce que notre amour pour lui nous conduit à faire? Quelle folie! Son amour pour nous l'a consumé. Et nous, face à son sacrifice, qui nous donne la mesure de l'amour de Dieu pour nous, à quel sacrifice est-ce que nous nous livrons pour lui, pour nos frères et sœurs? Jésus voulait que le monde sache qu'il aimait Dieu. Il ne se contentait pas de dire « j'aime Dieu » et de dire un peu partout « vous savez, Dieu est bon, j'aime Dieu ». Il voulait le prouver à la face du monde. Alors, en sortant de la chambre haute, où il venait de prendre son dernier repas, parce qu'il savait que c'était son dernier repas, il a dit « afin que le monde sache que j'aime mon Père, levons-nous et allons-y, marchons. » Où? À la mort, à la croix, pour notre salut, pour le salut des gens. Des siens. Il lui a été commandé, mes frères et sœurs, de souffrir une mort atroce. S'il lui avait été commandé d'endurer cette mort pour toi seul, il y serait allé, hein? Il se serait soumis. Il est resté 3 heures à la croix, mais si le Père lui avait demandé d'y rester jusqu'au jour du jugement dernier, il avait assez d'amour en lui-même pour l'accepter. Ça me fait contempler une merveille. Il a souffert d'une façon atroce. Plus que normal, mort pour cela. Mais il nous a aimés plus, beaucoup plus qu'il n'a souffert. Alors quand on regarde ces plaies, c'est vrai qu'on est horrifié, bien sûr, mais elles ne nous disent pas l'immensité de son amour. Au-dedans de lui, c'était comme un océan sans bornes de flammes d'amour, et vu du dehors, on n'en voit que quelques étincelles qui jaillissent. Quand on regarde ses plaies. Et d'ailleurs, qui est touché par son amour manifesté en croix? Qui s'inspire de son amour pour aimer? Jésus disait, la plus grande preuve d'amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. Et lui, il l'a fait. Comment aimons-nous? C'est à peine si on supporte certains frères et sœurs. contempler Jésus en croix, mesurer son amour, mesurer l'amour qui se donne, qui se sacrifie. En contemplant ce sacrifice, ce que vous pouvez voir, souvenez-vous que ce que vous voyez, c'est qu'une étincelle qui jaillit à l'extérieur de son cœur, cœur qui contient un océan sans limite de flammes d'amour. Alors, je pose une question. Comment est-ce que vous osez douter de l'amour de Dieu pour vous? Parce que vous pensez que vous avez trop péché, alors Dieu ne peut plus vous aimer? Comment osez-vous penser une telle chose? Parce qu'il ne répond pas à vos prières, alors vous pensez qu'il ne vous aime plus? Parce qu'il ne vous accorde pas ce qui vous est promis? Montrez votre foi. Ayez foi dans son amour pour vous, comme ces hommes et comme ces femmes qui n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis. Lisez cela dans Hébreux 11, 39. N'oubliez pas ces hommes et ces femmes qui ont été torturés et qui n'ont pas accepté de délivrance. Pourquoi n'ont-ils pas accepté de délivrance? Pour obtenir une meilleure résurrection. Ils ne doutaient pas de Dieu. Ils ne doutaient pas de l'amour de Dieu pour eux. Ils connaissaient toutes les doctrines et toutes les promesses au sujet de la protection divine. Ils connaissaient toutes les doctrines et toutes les promesses au sujet de la guérison divine, au sujet de la délivrance, au sujet de la prospérité. Cependant, ils ne reçurent pas ce qui était promis afin d'obtenir une meilleure résurrection. Qu'est-ce que c'était que cette doctrine? Trouvez ça dans Hébreux 11, 35 à 40. Si vous voulez, on peut le lire. On va prendre du temps pour lire ça. Hébreux 11, 35 à 40. Je lis toujours dans la version Darby. D'autres furent torturés, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvés par des moqueries, par des coups, et encore par des liens et par la prison. Ils furent lapidés, sciés, tentés. Ils moururent égorgés par l'épée. Ils errèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dans le besoin, affligés, maltraités. Eux desquels le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, et les cavernes et les trous de la terre. Et tous ceux-ci, ayant reçu le témoignage par la foi, n'ont pas reçu ce qui avait été promis. Eh oui, frères et sœurs, ça laisse songeur. Qui prêche de telles choses aujourd'hui? Si on prêche cela, les gens viendront-ils encore dans nos réunions? Certains anciens de nos frères et sœurs, et encore aujourd'hui, certains de nos frères et sœurs, sont torturés, éprouvés par des moqueries, éprouvés par des coups. Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé d'être torturé, mais peut-être que vous êtes torturé moralement par quelqu'un de votre famille, ou par quelqu'un au travail, ou par même peut-être quelqu'un dans l'église, je ne sais pas. Peut-être vous êtes éprouvé par des moqueries, éprouvé par des coups durs aussi. Peut-être vous êtes éprouvé par des jaloux, par des méchants, par des idiots. Peut-être êtes-vous battu, éprouvé par des coups physiques ou moraux. N'oubliez pas, peut-être vous êtes dans le besoin. N'oubliez pas, la lettre aux Hébreux nous parle de frères et sœurs authentiques qui n'ont pas accepté de délivrance. Afin que, pour que, pour pouvoir hériter, pour pouvoir recevoir une meilleure résurrection. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alors oui, nous croyons en Jésus et nous savons que nous ressusciterons, c'est certain, non pas pour le jugement au trône blanc d'Apocalypse 20, 11, mais nous ressusciterons tous et nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ afin de recevoir nos récompenses. Et là, on peut tous dire Alléluia, on se réjouit, mais ne vous réjouissez pas trop, parce que à ce tribunal, nous serons jugés et nous recevrons selon le bien ou le mal que nous aurons fait dans nos corps. On peut lire ça dans dans 2 Corinthiens, si vous voulez avec moi, 2 Corinthiens 5, 9, 10. 2 Corinthiens 5, 9, 10. C'est pourquoi aussi, que nous soyons présents ou que nous soyons absents, que nous soyons vivants ou pas, nous nous appliquons avec ardeur à lui être agréable, car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive les choses accomplies dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Et là, certains enfants de Dieu qui auront été infantiles dans leur foi, qui auront cherché toujours à esquiver leur croix, qui pensent qu'on peut suivre Jésus en revendiquant sans cesse le bien, la prospérité, la santé, toutes ces choses pour vivre dans un petit cocon bien douillet et que nous n'avons rien à souffrir, ces gens avec cette doctrine un petit peu enfantine, infantile, ces gens qui cherchent toujours à obtenir leur délivrance dans toutes les situations. Oh, j'en ai entendu un l'autre jour qui disait « c'est vraiment la fin des temps, même mon pare-choc est tombé ». Ne supportons pas de souffrir la moindre des choses. Ces gens-là, qui ne veulent pas souffrir ici-bas sur terre, avec et pour Christ, ben ils font mal. Ces chrétiens-là recevront plus ou moins de coups pour récompense. Luc 12, 47. Paul parlait de choses dont plus personne ne veut parler de nos jours parce que c'est pas à la mode. Il parlait de communier aux souffrances de Christ. Philippiens 3, 10. Il parlait de ses souffrances terrestres. Il disait que ses souffrances terrestres étaient aussi celles de Jésus-Christ. Colossiens 1, 24. Et même, il croyait qu'il portait en lui-même, sur la terre, des souffrances qui manquaient à celles de Jésus-Christ. Colossiens 1, 24. Il avait même un ange de Satan, un démon qui venait le gifler de temps en temps. Et quand il a prié pour en être délivré, Jésus lui a dit « Non, ma grâce te suffit. » Ah, évidemment, nous, on cite toujours le verset « Ma grâce te suffit. » Mais Jésus a dit « Non !» C'était un non catégorique, non, ma grâce te suffit. Je te laisse ce diable qui te gifle sans arrêt, je te le laisse. Pierre aussi croyait que nos souffrances sont utiles à Dieu. 1 Pierre 5, 9. 1 Pierre 5, 9. Je lis. Résistez-lui. Alors, je lis un petit peu avant, hein, verset 8. « Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. » Alors, on dit, oui, alors le diable cherche, me fait des problèmes, alors je lui résiste avec une foi ferme et je repousse toutes ses attaques et tout. Non, c'est pas de ça dont il dit, c'est pas de ça dont il parle. Il dit, il cherche à vous dévorer, c'est-à-dire à vous tuer, à vous supprimer, à tuer votre foi. C'est ça. C'est pas les coups qui sont importants. Les coups, si vous, quand vous prenez des coups, quand vous prenez des gifles de la part d'un diable, quand on se moque de vous, quand vous met en prison, quand vous accuse injustement et toutes ces choses-là, et que vous vous comportez bien là-dedans, eh bien, vous obtiendrez une meilleure résurrection. Nous devons nous opposer au diable afin qu'il ne nous dévore pas, qu'il ne nous tue pas. Mais il a le droit de se moquer de vous, il a le droit de vous battre, il a le droit de vous gifler, il a le droit de vous humilier, il a le droit de vous torturer. Et si vous passez bien par toutes ces choses-là, vous obtiendrez une meilleure résurrection. Une sœur, la sœur Elisabeth, m'a envoyé un texte et je le trouve très beau. Elle a raison, c'est tout à fait juste. Matthieu 5, 10, 11. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle là. C'est pas Paul, c'est pas Pierre. On peut dire, oh Paul, vous savez, oh Pierre. Mais là, c'est Jésus. Vous êtes bien heureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Voilà. Vous êtes bien heureux. Ah bon? Mais oui, si Jésus le dit, alors c'est à nous de commencer à croire. Ne laissez pas le diable vous tuer. Ne laissez pas le diable tuer votre foi. Ne laissez pas le diable tuer votre amour pour Dieu et pour les frères et sœurs. À cause de ceci, à cause de cela. Dans tout cela, Pierre dit, vous savez que vos frères, dispersés dans le monde, passent par les mêmes épreuves. Verset 9. Ainsi, il dit au verset, au chapitre, dans 1 Pierre 4, 19, il dit, ainsi, vous souffrez selon la volonté de Dieu. Seigneur, je ne veux pas souffrir. Tu as promis dans ta parole de nous délivrer. Tu as tout souffert à la croix afin que nous n'ayons pas à souffrir. Pourquoi est-ce que je souffre tant? Pierre dit aussi, en fait, plus vous souffrez, plus vous participerez aux souffrances de Christ ici-bas, plus vous exulterez dans la joie quand il paraîtra dans sa gloire. 1 Pierre 4, 13. La Bible nous dit que Jésus a été élevé à la perfection par les souffrances. Hébreux 2, 10. Quelle sorte de résurrection voulez-vous? Hébreux 11. Ils n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. À quoi elles vous servent vos souffrances? Si vous les vivez comme Christ a souffert les siennes, vous aurez une meilleure résurrection. Y croyez-vous? Paul disait que vos souffrances de maintenant ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. Romains 8, 18. Maintenant, ça c'est à quoi vous servent les souffrances. Maintenant, vos souffrances, en quoi servent-elles Dieu? Vos souffrances, elles servent à prouver votre amour à la face du monde terrestre et à la face du monde spirituel. Et nous allons bientôt sortir de l'endroit où nous sommes, nous ici à la chapelle, vous chez vous ou dans votre voiture, je ne sais pas, vous allez sortir. Est-ce que vous pouvez dire avec cette sorte de foi, afin que le monde sache que nous aimons Dieu, allons et marchons, allons, allons à la mort? Combien vont dire que ce message n'est pas positif? Il est le plus positif qui soit, mes frères et sœurs, car il ne vise pas que notre confort. Il vise la gloire de Dieu. Il nous encourage à vivre ses paroles. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si tu veux me délivrer, c'est bien. Si tu ne veux pas me délivrer, c'est bien aussi. Et troisième possibilité, Seigneur, je ne veux pas, je n'accepte pas d'être délivré, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Je vivrai ta volonté de toute façon ici-bas, en vue d'une seule chose, ta gloire. Seigneur Jésus, je prie que ce message ait eu un impact dans le cœur de ceux qui viennent l'écouter, afin non pas qu'ils deviennent fatalistes en disant « Ah, ben je souffre pour la gloire de Dieu, et voilà », et puis que dans le cœur il y ait plein d'amertume, non. Mais je te prie pour que ces personnes soient véritablement élevées par ton esprit au-dessus de la tempête, qu'ils puissent contempler que tu es sur leur chemin, que tu ne les as pas abandonnés, que tu tires gloire de leurs souffrances et que finalement ces souffrances sont bien peu de choses à comparer de la gloire qui les attend. Je te demande, Père, que cette parole soit pour une consolation, non pas pour baisser les bras en disant « je ne vais plus me battre », non, mais que cela soit une consolation dans cette souffrance qui dure. Merci, Seigneur Jésus, d'aider chacun et chacune. Merci, mon Dieu. Amen. Amen.